Pratique. La compréhension des thèmes gnostiques. Bien, mes chers amis, nous sommes à nouveau réunis pour en apprendre plus sur les pratiques de la gnose. La gnose est une connaissance absolument pratique, assez de théories, d'hypothèses et de raisonnements. Nous voulons aller directement à la pratique. Ce sujet est en fait très intéressant parce qu'il traite des thèmes de la gnose. Il est fondamental que nous approfondissions la connaissance de cet enseignement afin que celle-ci s'exprime de façon naturelle en nous, dans les différents actes et agissements de notre vie. Nous déposons très souvent cette connaissance dans notre mental, dans notre centre formateur qu'est la mémoire. Et lorsque surviennent les problèmes, les difficultés, les adversités de la vie, nous ne nous souvenons pas de ces pratiques, des techniques, de la connaissance gnostique. Le temps passe et soudain, nous nous souvenons qu'il existe une technique, que nous avions cette clé pour pouvoir aller de l'avant, dans telle ou telle situation de la vie, et devant tel ou tel problème, mais il est trop tard. Il nous faut donc quelque chose pour que cette connaissance s'exprime de façon naturelle en nous, et cette chose, c'est amener cette connaissance à notre conscience. Quand une connaissance arrive dans la conscience, lorsqu'elle pénètre dans les profondeurs de la conscience, elle peut alors s'exprimer de façon naturelle. Nous ne souhaitons pas ici, dans ces études gnostiques, imposer des codes de conduite, parce que les codes de conduite ne servent à rien. Les circonstances offertes par la vie sont infinies, et chaque personne est différente. Pour l'une, le fait de se conduire de manière énergique, à un moment donné, lui semblera correct. Mais dans cette même circonstance, une autre personne agira de façon douce, parce que cela sera pour elle le plus indiqué. Les codes de conduite, donc, ne servent à rien. Ce n'est que la compréhension qui compte. La compréhension surgit de l'équilibre entre l'être et le savoir. Lorsqu'il y a beaucoup de savoir, nous nous convertissons en fripons de l'intellect. C'est ce que nous sommes, des fripons intellectuels. Nous avons toute une bibliothèque dans la tête. Nous emmagasinons des livres et des livres. Nous apprenons de nombreux concepts. Mais nous continuons à être des misérables, avec des problèmes à la maison, dans notre couple, avec nos enfants. Nous avons des problèmes de toutes parts. Dans cette époque de crise mondiale, de banqueroute de tous les principes moraux dans le monde, il y a des guerres, il y a de la famine, il y a de l'exploitation. Nous sommes en train d'exterminer toutes les espèces sur Terre. Nous contaminons les rivières, les fleuves, les mers et les océans, l'atmosphère, le ciel, tout. Si nous regardons bien, nous devons voir et accepter que la majorité de nos dirigeants sont des intellectuels. Dans la gnose, nous ne sommes pas contre l'intellect, non, mais il faut qu'il s'équilibre avec l'être. Et lorsque l'on abuse de l'être et que l'on oublie le savoir, alors on tombe dans l'autre extrême, de l'autre côté du pendule, et on devient, comme le disait Gurdjieff, un saint stupide, un saint idiot. Une personne très mystique, oui, spirituelle peut-être, mais inadaptée devant les différentes circonstances que nous offre la vie. C'est pour cette raison qu'il est important d'équilibrer l'être et le savoir. Lorsque l'équilibre entre l'être et le savoir existe, alors vient la compréhension. La compréhension est une faculté très précieuse, une faculté extraordinaire. Si on comprend, on peut transformer ses impressions. Si on comprend, on peut adapter son comportement à un instant précis. Si on comprend, on respecte son prochain. Si on comprend, on apprend à vivre. Mais cette compréhension ne surgit pas comme cela mécaniquement. Il faut un travail intérieur pour que cette compréhension apparaisse. Et elle apparaît quand il y a équilibre entre l'être et le savoir. Que devons-nous faire pour que cet équilibre se fasse? Il faut amener ces connaissances à la méditation. Les connaissances que nous recevons, les conférences que l'on nous donne, que ce soit les vidéoconférences du vendredi à 8h du soir, ou les leçons que nous recevons dans notre courrier électronique, doivent être menées dans nos méditations. Il ne faut pas les laisser dans notre intellect, dans notre raisonnement. Nous ne devons pas non plus lire les conférences très rapidement. L'enseignement alors ne servirait à rien. Il ne va absolument pas provoquer de changement en nous, ni de transformation radicale. Nous emmagasinerions tout simplement de l'information dans notre centre formateur, qu'est la mémoire, et cela de façon complètement mécanique et trop rapide. Et étudier ainsi n'est pas correct. C'est malheureusement ainsi que nous vivons aujourd'hui. On fait tout très rapidement. On lit en vitesse nos courriers électroniques. On lit des livres à toute vitesse. Nous relisons une conférence en 5 minutes. C'est impossible. C'est impossible si l'on veut changer, si l'on veut se transformer. On doit étudier paragraphe par paragraphe, mot après mot, en recherchant leur profonde signification. Si nous laissons simplement la connaissance dans l'intellect, alors, lorsque nous mourrons, toute cette connaissance se perdra. Il est curieux de voir que beaucoup d'entre nous, vie après vie, si nous avons toujours la même profession, que nous soyons obligés à chaque nouvelle existence d'étudier des années entières pour apprendre cette profession. C'est absurde. À chaque vie, nous faisons la même chose, parce que lorsque nous mourons, nous perdons toutes ces connaissances pour les avoir déposées seulement dans notre mémoire. Cette connaissance tellement merveilleuse que nous recevons pour pouvoir nous transformer, pour être différents, se perd également. Il faut que cette connaissance ne se perde pas. Il faut que depuis enfant surgisse cet enseignement de façon spontanée, naturelle, et nous y arriverons si nous déposons cette connaissance dans notre conscience. Que devons-nous faire pour cela? Il faut tout d'abord ne jamais perdre cette soif pour cet enseignement, ne jamais perdre le désir pour cet enseignement, être sans cesse avide de ces enseignements. Si nous écoutons une conférence 5, 10, 15 fois, cela n'a pas d'importance. Il faut toujours être attentif, alerte, désireux, toujours avoir faim de cette connaissance, cette eau de sagesse. Si nous agissons de la sorte, alors, peu à peu nous allons capter cet enseignement, non pas seulement dans notre mental, mais beaucoup plus profondément. Et si nous nous relaxons physiquement, si nous relaxons notre mental et réfléchissons à ces enseignements, en essayant de les détailler, de capturer leur profonde signification, avec un mental silencieux, alors la connaissance va passer dans la partie émotionnelle et va devenir émotive. Ce sera un très grand avantage. Lorsque la connaissance passe dans la partie émotionnelle, alors nous arriverons à bien mieux la capter. La connaissance gnostique n'est pas faite pour le mental. La connaissance gnostique est faite pour la conscience. Et l'avoir dans notre centre émotionnel est déjà un grand avantage. Réfléchissez. Combien de personnes savent que boire de l'alcool n'est pas une bonne chose? Combien de personnes savent que se mettre en colère est une erreur, que l'on se trompe, que cela fait du mal à nos enfants, fait du mal à notre épouse ou notre époux, que cela fait du mal à nos relations familiales? Nous le savons, mais nous continuons quand même à nous mettre en colère encore et encore. Pourquoi? Parce que la colère est émotionnelle et que le savoir, lui, est intellectuel. Et le mental est extrêmement lent par rapport au centre émotionnel. Alors, si nous déposions la connaissance dans le centre émotionnel, à travers la réflexion, en méditation, en essayant de capter la signification profonde de cette connaissance dans la méditation, ce serait magnifique. Si on continue à faire cela avec ce désir, et si en plus de travailler, par exemple, sur la mort de nos défauts, sur l'auto-observation, sur la transformation de nos impressions, si on continue à méditer sur cet enseignement, on arrivera à la fin à déposer cette connaissance dans notre conscience, et ainsi elle ne se perdra jamais. C'est notre objectif dans cette pratique, déposer la connaissance dans notre conscience, et nous allons le faire en ayant un désir de plus en plus grand pour ces connaissances, et nous ne devrons pas nous lasser de cet enseignement pour qu'il ne devienne pas aride. Nous devrons toujours être habités par lui, car c'est un enseignement merveilleux, et il faut le joindre à la méditation. Il ne faut pas nous contenter de lire simplement les cours, les livres, un chapitre. Il faut lire doucement, tranquillement, étudier avec attention, doucement, sans précipitation. Et ensuite, après l'étude, nous relaxerons notre corps et notre mental et nous porterons cette connaissance dans notre méditation. Que ce soit un verset de la Bible, un livre sacré, une conférence, il faut essayer d'en éplucher chaque partie. Nous devons agir de cette manière pour nous rendre compte que cette connaissance fera partie de nous et nous transformera. Elle fera de nous quelqu'un de différent. Nous deviendrons des humains intègres dans le sens le plus complet du mot. Et nous arrêterons d'être des animaux intellectuels. À présent, nous allons faire cette pratique, mes amis. Installons-nous dans une position confortable, les mains posées sur les cuisses ou la main droite dans la paume de la main gauche. Fermons les yeux pour que les perceptions sensorielles externes ne nous dérangent pas. Gardons les yeux fermés et commençons par relaxer notre corps pour qu'il ne nous gêne pas dans cet exercice. Nous pouvons rester assis pour faire cet exercice, ou bien nous pouvons aussi nous coucher sur le dos, en décubitus dorsal, ou bien prendre la position de l'étoile, la tête dirigée vers le nord. Mais nous pouvons rester assis. Commençons notre relaxation par les pieds. Relaxons la plante de nos pieds, les orteils, les chevilles. Nous nous concentrons simplement sur chaque partie de notre corps et nous la relaxons. Notre respiration doit être lente et rythmée, douce, comme les enfants nouveau-nés dans leur berceau. Sans complications, sans attendre quelque chose d'extraordinaire, non. Soyons comme un nouveau-né, innocent. Voilà l'attitude que nous devons prendre. Nous sommes concentrés sur chaque partie de notre corps. Relaxons nos mollets. Nos genoux. Nos fessiers. Et notre corps se relaxe. Recherchons cet équilibre en étant en harmonie avec la nature, avec l'univers, en relâchant toutes les tensions de la journée. Nous avons tellement d'anxiété, de préoccupations. Relaxons notre corps. Relaxons notre taille, nos hanches, nos organes créateurs. Relaxons peu à peu tout notre corps. Avec patience. Soyons en rappel de soi, c'est-à-dire ici et maintenant. Que notre mental ne s'échappe nulle part. Nous sommes ici et maintenant. Ni dans le passé, ni dans le futur. Nous sommes là, ici. Relaxons notre ventre. Notre poitrine. Notre dos. Avec une respiration lente et rythmée. Pareil à celle des nouveau-nés, dans une attitude innocente, sans rien attendre, en étant ici et maintenant. En nous relaxant et en recherchant un instant de paix, de quiétude. Voilà ce que nous recherchons. Relaxons nos épaules. Nos bras, et nos mains. Tout simplement, concentrons-nous sur chaque partie de notre corps et relaxons-les. Nous devenons au fur et à mesure de cette relaxation de plus en plus conscients de cet instant, de ce cadeau que nous donne la divinité, d'être là, pour nous auto-connaître, pour rechercher la vérité, la lumière. et la sagesse. Relaxons le cou. La nuque. Relaxons la tête. Le front, les yeux, le nez, les joues, la bouche. La langue, le menton, les oreilles, toute notre tête se relaxe. Maintenant que nous avons bien relaxé notre corps physique, portons notre attention sur notre être, notre esprit que nous possédons tous, notre intime, notre monade divine, ou comme l'appelait le grand Kabir Jésus, notre Père qui est en secret. Chacun de nous possède son propre être, sa propre étincelle divine, immortelle, cette émanation de la divinité, cette étincelle qui fait partie de ce grand feu qui est Dieu. Nous nous concentrons sur lui et demandons la sagesse pour comprendre l'enseignement gnostique. Avec foi et dévotion, supplions le Père qui est en secret de nous donner cette compréhension en nous dont nous avons besoin pour comprendre la gnose. Voilà le moment de placer dans notre intérieur chaque fragment de cet enseignement que nous désirons comprendre. Par exemple, la doctrine des plusieurs. Cette doctrine a ses fondements au Tibet et en Égypte. Et en réalité, elle existe dans tous les peuples du monde entier. Elle a été profondément étudiée dans ces cultures. Et quelle est cette doctrine des plusieurs? Eh bien, elle dit que nous autres, nous ne sommes pas un. Nous ne sommes pas seulement un individu, mais nous sommes plusieurs. Cette partie de l'enseignement gnostique millénaire, nous allons essayer de la comprendre avec le cœur. Souvenons-nous de n'importe quel jour de notre vie, par exemple, aujourd'hui. Nous pouvons voir que nous avions une pensée ce matin en nous levant. Et après quelques minutes, Nous avions une pensée différente, un autre sentiment. Nous nous levons, nous prenons notre petit déjeuner. Une pensée nous effleure. Elle est quelquefois contradictoire avec la première pensée ou le premier sentiment que nous avions lorsque nous nous sommes levés. Essayons de comprendre cette doctrine des plusieurs. Nous ne sommes pas un. La personne qui est arrivée tout à l'heure pour faire cette pratique n'est plus la même à présent. Maintenant, nous sommes quelqu'un d'autre. Ainsi, avec un corps relaxé, tranquille, essayons de capturer la profonde signification d'un enseignement. Par exemple, dans notre cas, la doctrine des plusieurs. Essayons d'observer et de constater que nous ne sommes pas un, mais beaucoup. Le serment d'amour que fait un individu à une femme est remplacé plus tard par un autre moi, par un autre ego, par un autre moi-même, un autre soi-même, qui n'a rien à voir avec ce serment. Cet homme oublie donc cette femme et elle est déçue. C'est un exemple très clair pour montrer que nous ne sommes pas un, mais plusieurs. De très nombreuses personnes, des milliers, commencent les études gnostiques, mais rares sont ceux qui continuent et persévèrent dans cet enseignement. C'est très courant. Et qui est à l'origine de cela? C'est précisément parce qu'un moi qui a aimé un instant l'enseignement gnostique a été remplacé plus tard par un autre moi, un autre ego, qui n'a lui aucun intérêt pour la gnose. Et l'enseignement est abandonné. Si nous étudions n'importe quelle culture du monde, nous trouverons dans ces mythologies, ces légendes, cette idée que le mal est utilisé par une foule, par une armée, par un nombre incalculable d'entités négatives. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces entités vivent à l'intérieur de nous-mêmes. Ils sont les seigneurs de Xibalba, des Mayas, les démons rouges de Seth pour les Égyptiens, les Rakshasas des Hindous, les légions dans l'Apocalypse de Saint Jean. Toutes ces entités vivent à l'intérieur de nous-mêmes. L'ennemi ne se trouve pas à l'extérieur, nous le portons à l'intérieur. Les intimes contradictions que nous avons sont très nombreuses. Nous affirmons aujourd'hui quelque chose et demain, nous dirons exactement le contraire. Cela est dû justement à cette multiplicité. Nous ne sommes pas un, mais beaucoup. Il faut essayer de comprendre cela, de le comprendre avec le cœur. Observons toutes nos pensées en cet instant. Observons quelles sont-elles maintenant? Et voilà une preuve suffisante pour nous rendre compte que nous ne sommes pas un. Ces voix, ces cris, ce bouillonnement mental, en voilà la cause. Ce sont nos défauts. Comprendre chacun de ces moi qui dominent notre machine humaine est fondamental pour un possible avancée spirituelle. Comprendre chacun de ces moi qui dominent notre machine humaine est fondamentale pour une possible avancée spirituelle. Nous sommes des machines qui sont contrôlées par beaucoup de maîtres. Tel un bateau avec de très nombreux passagers et sans capitaine. Et chaque passager veut conduire le bateau. Il le fait un moment. Puis ensuite, il est remplacé par un autre passager qui veut lui aussi dominer le bateau et avoir un pouvoir absolu sur lui. Et ce bateau, c'est nous. C'est la triste réalité. Nous sommes beaucoup. Restons quelques instants encore en silence, sans rien vouloir analyser. Tout simplement restons en silence, sans rien imaginer, sans rien faire, rien. Restons seulement en paix et en silence. Remercions notre être, notre intime, pour l'aide qu'il nous a offert durant cette pratique. Terminons cet exercice. Ouvrons les yeux peu à peu et bougeons notre corps lentement. Cet exercice, cette pratique, sera la manière pour nous de prendre conscience des leçons que nous étudierons dans les livres gnostiques, et pour les étudiants, faites aussi cet exercice pour les études que vous avez entreprises, et vous verrez qu'elles en seront facilitées. Pour mieux comprendre ce thème, nous vous recommandons de lire le chapitre 13 du livre « L'éducation fondamentale » intitulé « Compréhension et mémoire » ainsi que le chapitre « Compréhension créatrice » du livre « La grande rébellion ». Vous pouvez lire aussi le chapitre « La compréhension » dans le livre « La révolution de la dialectique ». Et cela vaut vraiment la peine de faire toutes ces pratiques. Institut culturel Quetzalcoatl, www.samaelgnosis.net